L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion Transistor, en direct à midi, rediffusée à 18h. Alors aujourd'hui, on retrouve notre équipe des citoyennes et citoyens du climat de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne-Maritime. Je vous rappelle que c'est un groupe qui est ouvert à toute la population. Donc si vous habitez le territoire, si vous souhaitez agir pour limiter le dérèglement climatique ou au mieux s'adapter à ses conséquences, venez. C'est animé par l'association Énergence qui propose aussi des permanences, conseils en rénovation énergétique dans les différentes communes. Et en outre, ce groupe de citoyennes et citoyens du climat s'est doté d'un site internet. Chaque trimestre, donc, nous réalisons une émission sur un sujet qui nous tient à cœur. Il y a eu les mobilités, il y a eu l'eau, il y a eu les panneaux solaires. Aujourd'hui, on va revenir sur les enjeux d'alimentation locale, en particulier ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire, ou plutôt l'autonomie, on va voir ça. Céline Marzin, Hervé Gumès, Joël Guériec sont avec nous. Bonjour.
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 Justement, pour un territoire comme notre territoire, quelle est la juste définition ou notion en matière d'alimentation? Est-ce que c'est l'autonomie? Est-ce que c'est la souveraineté? Et puis, quelle est l'échelle la plus pertinente? Céline?
Peut-être je vais commencer par rappeler quelques chiffres qui ont été établis dans le cadre du plan d'alimentation territorial.
De la presqu'île,
dont Lorina Tétio est en charge. Donc sur des chiffres de 2020, on a aujourd'hui 148 exploitations agricoles en baisse de 48%. C'était 259 en l'an 2000, il y a 20 ans. Et en surface agricole utile, nous avons à peu près 10 000 hectares, dont la moitié est enherbée, donc sont des prairies. 25% en céréales et 5% en maraîchage. Et sur la totalité de ces agriculteurs, 33%...
Mais quand on dit céréales, ce n'est pas forcément des céréales pour l'alimentation humaine, on est d'accord,
hein? Non.
Oui, oui.
C'est un bon point. Et 33% font de la vente en circuit court, ce qui représente 38% du territoire.
Donc, peut-être... circuit court, c'est zéro intermédiaire, vente directe, quoi.
C'est de la vente directe, tout à fait. Donc on a parlé de 10 000 hectares à peu près, avec une surface moyenne de 63 hectares par exploitation. Si on regarde les données de la FAO, ce qu'il faudrait en surface agricole pour nourrir une personne.
Donc c'est l'organisme de l'ONU qui est chargé de l'alimentation, enfin des questions alimentaires et agricoles, c'est ça?
Tout à fait. Et donc pour nourrir une personne, la FAO estime qu'il faudrait 6 000 m², soit 0,6 hectares. Et décliné en deux versions, donc il faudrait 2 000 m² pour les céréales et 4 000 m² pour des fruits et légumes.
Ça paraît énorme hein, quand on entend certains jardins qui, soi-disant, alimentent toute une famille avec 250 mètres carrés.
En général, il n'y a pas les céréales.
C'est ça le problème,
voilà. D'accord. Et c'est aussi parce que la FAO parle de chiffres qui sont basés sur une agriculture qui est mécanisée. Les 250 mètres carrés pour nourrir une famille de 4 personnes, c'est plutôt une agriculture en agroécologie, permaculture, où on parle d'une agriculture intensive et pas extensive.
Mmh. Oui.
Voilà. Et donc, si on se base sur les chiffres de la FAO, pour, qui est l'agriculture que l'on voit aujourd'hui, qui est très mécanisée et qui est très médiatisée ces 6 derniers mois, avec 6 000 m² par personne, on nourrirait en presqu'île 16 900 personnes sur les 22 000 habitants que nous sommes à peu près.
Donc on n'y est pas, oui.
Mais si on convertit les prairies, les 50% de prairies, puisque la moitié de nos 10 000 hectares sont en prairies, c'est si on les convertit en maraîchage. Et si on ne le fait pas, c'est 8 000 personnes, c'est-à-dire un tiers de la population aujourd'hui.
Parce que notre territoire, traditionnellement, Joël, c'est un territoire plus d'élevage, hein, c'est ça?
C'est-à-dire que globalement, sur le territoire, on n'a pas de qualité de terre qui permette de faire des céréales partout. Et effectivement, Et l'herbe, donc, c'est une autre solution pour utiliser des terres qui peuvent peut-être pas toutes, en tout cas, être utilisées pour faire autre chose que de l'herbe.
Et l'élevage reste encore majoritaire hein, dans le portrait de la Comcom, Céline, c'est plutôt ça
Ben c'est 50% en prairie, 50% des terres sont en prairie, ce qui j'imagine c'est une bonne partie pour l'élevage. Après, il est aussi possible d'amender des terres petit à petit avec le temps, ça prend du temps pour effectivement modifier l'usage aujourd'hui qui est fait de ces terres agricoles.
Et pour amender, il faut quand même garder un peu d'élevage, c'est ça ?
On peut garder un peu d'élevage, ça peut être aussi avec du bois, avec de la paille, avec tout un tas de choses, et nos restes alimentaires aussi.
Avec l'élevage, on a quand même aussi un cycle vertueux, parce que ça permet d'enrichir effectivement et de ne pas apporter trop d'engrais, trop de pesticides sur les terrains. Donc l'élevage n'a pas que le rôle finalement de produire de la viande, mais aussi d'avoir un cercle vertueux sur les terres, quoi.
Tout à fait. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'en fait, nos manières de cultiver sont très monoculture, sont très concentrées. Aujourd'hui, on a un excès de lisier de par la concentration d'élevage. Auparavant, on est sur un territoire où chaque famille avait une vache, deux vaches, quelques cochons. Et c'était cette agriculture vivrière qui nourrissait le territoire. Il y avait certainement plus d'autonomie et de souveraineté alimentaire sur le territoire il y a 50 ans que ce n'est le cas aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, si on regarde l'agriculture dans le monde, c'est toujours 80% d'agriculture vivrière qui nourrit le monde.
Oui, c'est pas l'impression du tout qu'on a. En tout cas, quand on voit l'agriculture française, on a l'impression que c'est surtout une agriculture qui exporte, qui importe, qui exporte surtout. Mais
La France a, c'est aussi l'agriculture un lobby d'État. L'agriculture est la deuxième balance commerciale de la France. En termes d'exportation, la politique agricole commune, qu'elle soit au niveau de la France ou au niveau de l'Europe, elle a été mise en place pour exporter, pas pour nourrir les habitants du coin.
Et puis il y a une spécialisation des régions.
Tout à fait.
Et finalement, notre territoire paraît assez peu spécialisé. Enfin, qu'est-ce qui manque surtout ? C'est quoi, du maraîchage ?
Il manque du maraîchage, il n'y a que 6% de maraîchage. Mais ce n'est pas que notre territoire sur lequel il manque du maraîchage. Si on regarde des études qui ont été faites, notamment une association qui s'appelle Let's Food, qui a fait des études il y a 3-4 ans. Pardon. Et il y a que la région de Nantes, qui est une grande région historiquement maraîchère, qui aujourd'hui serait à peu près autonome à 6%. Le reste de la France est entre 1 et 2%.
Oui, donc c'est très peu.
C'est très peu.
On ne se nourrit pas sur son territoire.
Absolument
finalement.
Pas.
Et nous, on ne sait pas quel est le pourcentage. Enfin, il y a 33% de
Il y a 5% de maraîchage sur notre territoire, oui. Sachant qu'il y a une personne qui s'est arrêtée là, à Crozon récemment. Et aujourd'hui, ce qui moi me paraît important, ce serait de se préoccuper tout un chacun, que ce soit nous habitants ou aussi les élus, de se reconnecter à nos agriculteurs, de rester en lien, de communiquer avec eux, de prendre de leurs nouvelles. Et effectivement, quand on a quelqu'un qui s'arrête comme ça, peut-être de s'enquérir de ce que cette personne va faire de sa surface agricole, parce que quand on a fait du maraîchage pendant des années, ben c'est un sol qui est amendé, c'est un bon sol. J'ai participé à plusieurs rencontres nationales sur l'alimentation l'année dernière, et j'ai rencontré lors de l'une d'elles la maire de Plessé, à côté de Nantes. Plessé, c'est une ville, un village de 4000 habitants, et cette maire est une maire issue d'une liste citoyenne. Et depuis qu'elle a été élue, en fait, il y a 13 agriculteurs qui sont partis en retraite.
Oui, c'est ça. Et ça, c'est notre territoire est aussi concerné.
Voilà. Actuellement, sur la moyenne sur le territoire, c'est 3 agriculteurs ou 4 qui partent en retraite et un seul agriculteur qui s'installe. À Plessé, cette maire, depuis que son mandat a pris effet, elle a eu 13 agriculteurs qui sont partis en retraite et 13 installations.
Bravo. Donc elle avait anticipé en fait.
Elle a anticipé, c'est qu'elle va effectivement en tant qu'élue à la rencontre de ses agriculteurs. On a tous les ans nos journées du patrimoine en septembre. Elle a créé les journées du patrimoine agricole de Plessé depuis 3 ans.
Et donc oui, en général, elle arrive à conserver à peu près la même activité agricole sur un territoire, enfin sur un terrain donné.
Alors ça, je ne sais pas, on n'est pas rentré dans le détail à ce moment-là, mais elle a juste dit 13 départs en retraite, 13 installations. Mmh. Mais ça veut dire une implication des élus sur son territoire, sur son village, sur sa ville.
Ouais. Joël Guiriec était éleveur, donc il n'est plus. Mais quand vous étiez proche de la retraite, est-ce que les élus venaient vous voir pour anticiper, ou c'est vous qui vous êtes occupé de la transmission qui a été transmise, pardon?
Non, les élus n'ont jamais dirigé ni orienté l'agriculture. C'est parce que faut bien reconnaître quand même que l'agriculture, c'est encore une profession. C'est heureusement peut-être une profession libérale. C'est-à-dire que on ne va pas dire à tel agriculteur, toi, tu vas faire telle production, toi, à côté, tu vas faire une autre production.
Non, mais pour l'anticipation avoir... de la transmission, je veux dire.
Ah, non, la transmission.
Pour vous aider, en fait, à transmettre. Est-ce que déjà, c'était une question ou c'était pas du tout une question, en fait?
Moi, j'ai arrêté il y a maintenant quelques années. À cette époque-là, on s'occupait assez peu de la transmission, effectivement. C'est-à-dire qu'on se contentait de dire que les exploitations qui ne seraient pas reprises, elles agrandiraient les voisins, en fait.
Ce que vous n'aviez pas envie de faire?
Moi, je n'avais pas envie de le faire. Donc, bon, j'ai eu de la chance de trouver quelqu'un qui est venu et qui s'est installé en bio sur une exploitation traditionnelle. Donc, j'étais plutôt content. Mais c'est un peu le hasard et ça ne se passe pas comme ça à chaque fois.
Je veux dire que c'était pas préparé, c'était pas prémédité.
Pas du tout, non.
Ah oui, non, c'est bon, je croyais.
un coup de tête plutôt de ma part. Et quelqu'un a su que j'avais l'intention d'arrêter et est venu me voir et s'est proposé de s'installer. Quoi. Mm-hmm. Mais je reconnais que ce n'est pas si simple.
Mm. Et maintenant, est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu plus anticipé
Maintenant, c'est beaucoup plus anticipé, oui, bien sûr. Je pense que les pouvoirs publics, enfin les responsables syndicaux, même se rendent compte que c'est bien joli d'agrandir les exploitations, mais je pense que la solution, c'est encore davantage d'installer des jeunes, et de plus en plus. Donc je pense que tous les territoires, maintenant, ont cette volonté d'installer des jeunes.
Et alors Céline, chez nous, c'est le cas.
L'obstacle, en fait, c'est la taille aujourd'hui des exploitations, puisqu'on a depuis 50 ans, avec le plan Marshall de l'agriculture, voulu par De Gaulle après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été effectivement une mécanisation qui était un recyclage de l'acier des chars, hein, et les nitrates, pareil... les engrais qu'on utilise, c'est du recyclage des nitrates des bombes. Il faut comprendre d'où vient en fait cette agriculture-là, qui est mortifère. Et aujourd'hui, la taille des exploitations fait que la moitié des jeunes qui s'installent aujourd'hui sont non issus du milieu agricole. Et pour moitié, ce sont des femmes, ce qui est aussi un vrai changement.
Et d'ailleurs, sur notre territoire, c'est du bio aussi, la moitié des installations. Ce qui n'est peut-être pas le cas partout.
Hein. Ouais. Non. Et du coup, ils ont une vision de l'agriculture qui est un petit peu différente, qui est plus vers des débouchés locaux et de la vente directe. Aujourd'hui, la PAC, la politique agricole commune, ce sont des subventions. Ils ont été créés pour permettre l'exportation, en fait. Et on part avec aujourd'hui, pour certains agriculteurs, ceux qui produisent pour l'exportation, leurs revenus à 80% viennent de la PAC. Les jeunes qui s'installent partent alors je vais utiliser un gros mot, d'un business plan qui n'est pas pour toucher la PAC, mais pour vraiment produire quelque chose qui soit à vocation locale et pour faire de la vente directe. Et parce que c'est beaucoup plus rémunérateur. Les agriculteurs qui vendent à l'exportation sont dépendants des prix de la bourse à Chicago.
Mais est-ce que c'est toujours le cas? Parce que là, il y a eu quand même une crise à cause de l'inflation. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les gens, ils voulaient de l'alimentation de qualité, mais ils n'étaient pas toujours prêt à mettre le prix. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème avec ça? Quelqu'un veut...
Mais je ne crois pas que les agriculteurs aient augmenté leur prix de vente.
Non, mais...
Mais il y a des intermédiaires, et notamment ceux que nous, avec qui on est en contact, qui sont la grande distribution. C'est eux qui fixent les prix auxquels ils vendent leurs produits transformés.
D'un côté, et pour revenir sur le territoire, il existe une carte des producteurs locaux qui vendent en direct. Il existe, qu'on peut trouver sur le site de la Comcom d'ailleurs. Et il y a possibilité d'acheter une grande partie de son alimentation, soit au marché, soit chez ses producteurs. Alors, bien sûr, ça dépend des habitudes de consommation qu'on a, ça dépend des besoins et des envies que l'on a.
Et des moyens financiers.
Et des moyens financiers, parce que c'est plus cher d'acheter chez les producteurs Quoique, ça dépend. C'est toujours pareil. Ça dépend qu'est-ce qu'on achète et comment on l'achète. Si on suit les rythmes et la saisonnalité, on arrive à acheter relativement bon marché. Et puis on achète son besoin net. On n'achète pas.
On ne gaspille pas moins, en tout cas.
Voilà, c'est ça. Au lieu d'acheter 3 ou 5 kilos de pommes de terre, parce que le conditionnement est fait pour acheter 3 ou 5 kilos, on achète 1 kilo. Alors, le kilo a beau être plus important, on en jette moins. Donc, il y a toute une approche à faire par rapport, une approche qui est presque mentale, à faire par rapport à son besoin de consommation que l'on a.
Oui.
Mais c'est aussi un problème de magasin, en fait, parce que tous ces producteurs, ils font de la vente directe et c'est vraiment ce qu'on veut. Il y a deux choses, en fait. C'est que cette alimentation, on en achète moins par rapport à celle qu'on trouve ultra transformée en grande surface, parce qu'on achète des produits bruts et qui ont encore beaucoup de fibres. Et c'est ça qui nous nourrit et ça dont on a besoin. La deuxième chose, c'est d'arriver à avoir un vrai magasin de producteurs digne de ce nom. Il y en a un à Telgruc, mais qui est ouvert à des horaires le vendredi après-midi sur une plage horaire très très fine. Ce qui manque sur la presqu'île, c'est un vrai magasin de producteurs. Alors je crois qu'il y en a un qui s'ouvre à Pont-de-Buis,
oui,
à l'initiative de la mairie de Pont-de-Buis.
Ça va venir. Ouais.
Il en faudrait un aussi à l'autre bout de la presqu'île, vers Crozon.
Oui, qui soit tout le temps ouvert.
Qui soit tout le temps ouvert. Ça peut être un magasin de producteurs qui soit associatif, où effectivement, les personnes qui viennent acheter de la nourriture puissent tenir la boutique 1 heure, 2 heures chaque mois. Et c'est aussi un engagement de notre part à dire, voilà, il nous faut un local de peut-être 400 mètres carrés qui permette aux producteurs locaux de rendre accessible cette alimentation saine et qui a du sens et qui permette de les rémunérer aux heures où un supermarché peut ouvrir. Et un engagement de tout à chacun, ça aura beaucoup de vertus, et pour les agriculteurs locaux, ça donnera envie de s'installer localement, et aussi pour les artisans locaux, pas seulement en alimentation, on a beaucoup aussi d'artisans en presqu'île, et ça recrée une économie, en fait. Aujourd'hui, ce qui nous manque en presqu'île, c'est un engagement politique pour une économie locale autre que le tourisme.
Joël, les agriculteurs, est-ce qu'ils ont un souci un peu plus grand qu'avant, d'autonomie alimentaire des territoires, ou pas spécialement, à votre avis?
Ouais, ce sera uniquement mon avis, effectivement. Je ne prétends pas avoir la vérité, mais je ne suis pas certain que l'objectif premier d'un agriculteur, quand il s'installe, ce soit de nourrir la population. Je pense qu'il a surtout envie de faire un métier qui lui plaît et de gagner sa vie en le faisant.
Ça pourrait être compatible.
Et on entend effectivement dans les arguments des agriculteurs lorsqu'ils sont en grosse difficulté dire heureusement qu'on est là pour nourrir la population. Mais je ne suis pas sûr que l'objectif de départ soit ça pour un agriculteur. Après, c'est...
Il est déconnecté en fait des consommateurs, c'est ça en fait la plupart du temps.
Je pense qu'un agriculteur qui produit 1 million de lait par an, c'est pas son souci de nourrir la population, même si c'est effectivement le cas, quoi.
Il ne la nourrit pas parce qu'il ne vend pas à la population. Ce n'est pas de la vente directe. Il vend à une coopérative qui vient prendre le lait. Et après, il sait plus, une fois que c'est parti de chez lui, il ne sait même pas déjà à quel prix le lait lui sera rémunéré. Mm-hmm. Quand le lait sort une fois que le lait est rentré dans le tank, du puits de lavage dans le tank, l'agriculteur n'a plus la main là-dessus. Ni sur le prix qui lui sera payé, ni sur ce que deviendra le lait. Et donc, on ne peut pas dire qu'effectivement, ces agriculteurs nourrissent la population. Il n'y a vraiment que ceux qui font de la vente directe, mais c'est un accompagnement aussi.
Et puis, c'est du boulot, la vente directe.
Un magasin de producteurs, c'est essentiel.
Mais normalement, un magasin de producteurs, c'est les producteurs qui viennent vendre. Sinon, ça passe juste à
Je crois qu'à Talargoise, il y a aussi un distributeur de produits agricoles, viande, lait, produits laitiers, légumes, en libre-service.
Est-ce que c'est le direct ou est-ce qu'il y a un intermédiaire? Parce que c'est ça.
Non, il n'y a pas d'intermédiaire, il ne me semble pas.
Pour la gestion du distributeur.
Est-ce que ce lieu est utilisé? Est-ce que les agriculteurs qui vendent dans ce distributeur en sont satisfaits? Je ne sais pas, j'ai pas de retour de ça.
Il y a une marge qui est prise sur le prix par rapport à si l'agriculteur avait fait de la vente directe.
Ouais. De toute façon, oui, il faut déjà payer l'outil de distributeur, c'est quand même un peu de technique, j'imagine.
Hervé,
Alors moi je suis très optimiste par rapport aux jeunes agriculteurs qui vont arriver. Encore faut-il qu'ils aient les capacités ou les facilités pour pouvoir s'installer. Mais il y a toute une... pour avoir participé à quelques réunions, il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui sont aujourd'hui, qui vont devenir agriculteurs, qui sont aujourd'hui en lycée professionnel, qui ont une volonté de faire de l'agriculture vivrière. Et justement de remettre du lien, de remettre entre eux, agriculteurs, producteurs, et les consommateurs qui peuvent avoir directement en face d'eux.
Sauf que le système ne les aidera peut-être pas, notamment les subventions.
Les subventions, et puis il y a le côté éducatif. Les programmes qui sont enseignés dans ces écoles d'agriculture sont encore bien tournés vers le productivisme, et il faudrait qu'elles s'ouvrent beaucoup plus aux différents modes de production, finalement.
Pour en revenir au projet alimentaire du territoire, parce qu'il ne reste pas tant de minutes que ça, sur la communauté commune, il est en place, hein, ce PAT, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il donne, en fait ?
Alors, en fait, c'est le niveau 1 qui a été fait et acté. Aujourd'hui, la Comcom fait candidature pour la phase 2.
Et ça veut dire quoi, le niveau 1 ?
Du PAT. La phase 1, effectivement, c'est un diagnostic. Et avec la Comcom a choisi 4 axes pour ce plan d'alimentation territoriale. C'est l'axe 1, c'est de favoriser l'accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous. Et donc aussi en faisant des actions de sensibilisation sur un bol alimentaire équilibré, sur il recense aussi les lieux où cuisiner sur le territoire. Il y a un deuxième axe qui est d'accompagner la restauration collective sur le territoire.
Oui, ça c'est un levier.
C'est un vrai levier. Voilà. Sachant que les collectivités sont soumises au marché public, donc il y a une petite il y a une petite difficulté là qu'il faut arriver à...
Et ça n'a pas évolué, ça, on ne peut pas afficher dans un marché public sa préférence pour les produits locaux.
C'est toujours illégal. Donc il y a la loi Egalim d'un côté, et puis de l'autre il y a quand même la loi des marchés publics, c'est-à-dire la loi de l'Europe, donc on est toujours sur ce système, il faut produire pour faire de l'argent et pas produire pour nourrir. La nuance, elle est vraiment là. Et c'est très difficile pour les élus et pour leurs agents d'arriver à faire se rencontrer ces difficultés-là.
Quand ils y arrivent, en plus, après, on les accuse d'avoir une cantine trop chère, n'est-ce pas, comme à Rosnoen, c'est ça, Joël ?
Et oui. Le prix de revient du repas, trop élevé.
Ah ouais, jugé trop élevé.
Ouais.
Et puis ils font se rencontrer aussi les cuisiniers des cantines, et ce qui permet aussi d'échanger des recettes et des bons plans pour arriver à trouver des producteurs et pouvoir aller dans le sens de ce que veulent aussi certainement les parents d'élèves. Le troisième axe, c'est valoriser les savoir-faire agricoles et les produits locaux.
Donc là, il y a une carte, justement, des productions locales, etc.
Ce magasin de producteurs qui est important. Et le quatrième axe, c'est soutenir et accompagner le développement agricole local en recensant les friches agricoles. Et donc pour ça, il y a une veille foncière qui se met en place. De ce que j'ai compris, les élus vont se réunir 3 fois par an. Il faudrait vraiment que cette veille foncière soit active. Et ça inclut aussi de peut-être regarder un local pour créer ce fameux magasin de producteurs, j'insiste. Le maire de Pont-de-Buis l'a fait. Le territoire de la Comcom est très étendu. Moi, personnellement, je n'ai pas l'autonomie avec ma voiture pour faire l'aller-retour à Pont-de-Buis. Et ce serait bien qu'il y en ait un aussi sur le territoire autour de Crozon.
Oui, parce que ce n'est pas le tout d'aller chez les producteurs directement. Mais c'est vrai qu'à force, quand on fait une grosse tournée, bonjour le bilan carbone.
Pour que des agriculteurs puissent s'installer, il faut qu'il y ait des débouchés. Il faut que ces débouchés soient visibles pour la population.
D'ailleurs, dans le diagnostic, c'était un des reproches entre guillemets qui avait été fait, c'est que les gens estimaient qu'ils n'étaient pas assez informés des endroits où ils pouvaient se procurer cette nourriture-là.
Oui, parce qu'on va dans un magasin pour acheter son alimentation. Aujourd'hui, on va dans les magasins de grande distribution sur le territoire. Le jour où il y a un vrai magasin de producteurs, je pense que les gens déjà sauront où aller pour se produire une alimentation saine et locale et qui donne envie aux agriculteurs de s'installer.
Je trouve qu'on a une chance sur notre territoire aussi, c'est qu'on a quand même un abattoir. C'est-à-dire
aussi,
on en a parlé et on en reparle.
On
a un abattoir, ce qui permet donc aux agriculteurs d'amener leurs animaux et ensuite de distribuer en direct.
De ne pas faire des kilomètres aussi.
Même si la consommation de viande est appelée, je pense, à diminuer.
Mais et elle ça diminuera,
n'empêche,
ouais,
ça n'empêche que c'est encore un pan important du fait aussi qu'on fait beaucoup d'élevage, ce qu'on disait tout à l'heure, avec la surface en herbe qu'on a sur le territoire.
Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait rêver ? On a une minute pour rêver. On pourrait rêver de quoi, alors, en termes de stratégie politique alimentaire, en plus de ce qui est déjà prévu ?
Peut-être un budget alimentation locale dans le prochain budget de la communauté de communes qui vient d'être voté là il y a quelques jours.
Qui financerait quoi, par exemple ?
Un magasin de producteurs. C'est une préemption pour un magasin de producteurs. Mais oui, on a un abattoir, on a des agriculteurs, on a un nouvel abattoir, un bel outil qui va être mis en place, qui en plus a été redimensionné en tenant compte de la baisse de la consommation de viande pour faire un labo de transformation avec.
Ça, c'est intéressant aussi.
Et il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Ouais. Et un magnifique magasin de producteurs qui réunira du monde.
Alors, en complément, on peut, je reviens en complément sur la facilitation aux nouveaux agriculteurs de s'installer. Pourquoi ne pas créer des réserves foncières ?
Oui.
En allant un peu plus loin, réserves foncières, pourquoi la COMCOM ne serait pas propriétaire de terres agricoles ?
Oui, ça existe. Simplement.
Ça existe. Ouais. Et ça permettrait potentiellement de limiter la charge financière sur les nouveaux agriculteurs qui s'installent.
Il y a une centaine de légumeries qui sont en train de se créer partout en France, beaucoup moins en Bretagne.
Bon, bien, nous notons toutes ces idées et nous vous remercions. Une fois de plus, on retrouvera les citoyennes et citoyens du climat, de la presqu'île et de l'Aulne-Maritime très bientôt sur notre antenne. Au revoir.
Au revoir.